parce qu'en une journée, on ne peut célébrer toutes celles et tous ceux qui ont fait avancer les droits des femmes.
Parce qu'en une journée, on ne peut pas gagner l'égalité dans le travail, à l'Assemblée, dans le couple.
Parce qu'en une journée, on ne peut pas tout dire, tout dénoncer, de l'utilisation de l'image des femmes pour vendre des voitures aux violences sexistes et sexuelles.
Retrouvez-nous tous les troisièmes vendredis du mois dans notre émission « Il n'y a pas que le 8 mars » et en podcast sur Radio B.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Avec moi autour de la table, Joël.
Bonjour.
Michel.
Bonjour.
Et Natacha.
Bonjour Élodie.
Et notre invitée, Carole Echard. Bonjour.
Bonjour.
Dans la dernière émission, on s'était demandé comment ça allait pour les femmes. Eh bien, pas top top, on dirait, et pour diverses raisons. Toi, Joël, ce mois-ci, comment ça va ?
Ben moi, ça va, hein, mais peut-être que c'est notre monde, en fait, qui est malade. Et ça, c'est le titre de la très recommandée revue La Déferlante de ce mois de novembre. Alors que les politiques démontent les systèmes de santé, là on en reparlera, comment ne pas se faire grignoter le moral par les événements qui se produisent autour de nous, par les infos qui arrivent en flot continu et qui nous envahissent ? Est-ce que les femmes plus que les hommes, c'est ce que nous continuons d'explorer dans cette deuxième émission sur ce qu'on nomme la santé mentale ?
Il n'y a pas que le 8 mars sur Radio B.
Et notre invitée en studio avec nous, Carole Echard, donc vous êtes pédopsychiatre dans l'Ain depuis 10 ans.
Tout à fait.
On a parlé donc dans l'émission précédente de la rencontre à laquelle vous avez participé autour de l'inauguration de la stèle en hommage à Charles Juliet. Dans cette première émission, on se questionnait sur ce concept de santé mentale. On essayait de trouver une définition. Vous, comment vous définiriez ce concept ? Qu'est-ce qui vous inspire ?
Alors, il m'inspire... aujourd'hui, en 2025, année en France de la santé mentale, une forme de mépris. Parce que, bah, historiquement, ce terme, pourquoi pas, il est plutôt né de la bouche des psychiatres humanistes au sortir de la guerre, qui voulaient sortir d'une logique asilaire, d'une logique d'enfermement, qui avait conduit... voilà, pendant l'occupation, à énormément de décès de patients. Et puis, voilà, avant même cette période d'occupation, la vie à l'asile était franchement déshumanisante. Donc, voilà, il fallait en sortir. Hein, le sursaut humaniste de l'après-guerre l'a porté. Et voilà, ce terme de santé mentale était censé... casser un peu cette logique de l'asile. Sauf que, bah, comme beaucoup de choses, comme tout, à vrai dire, cette santé mentale a été récupérée voilà, par le néolibéralisme aujourd'hui et puis par la logique marchande. Et aujourd'hui, ce terme est dévoyé et plutôt à récuser. Là, je m'appuie sur l'ouvrage de Mathieu Bellassène, hein, qui est psychiatre, lanceur d'alerte, qui a écrit un ouvrage qui date maintenant, hein, de 2014, où il commençait à décrire un peu ce qu'on voit encore à l'œuvre aujourd'hui, mais en pire, bien entendu, de cette marchandisation et cette privatisation de la santé et de la santé mentale, ou en tout cas psychique, aux dépens, bah, d'une psychiatrie humaniste, publique. Voilà, donc c'est pour ça que moi, santé mentale, ça me hérisse un petit peu.
C'est un peu un terme fourre-tout, finalement, on n'arrive plus trop à comprendre ce qu'il veut dire.
Bah, après, en effet, ce néolibéralisme agit de façon insidieuse aussi avec le langage et avec le dévoiement des mots et avec les mots qui sont vidés de leur sens et avec des logiques de faire passer pour naturel des choses qui sont en réalité construites et pensées. Voilà, même quand on n'est pas trop parano, on s'en rend compte quand même qu'il y a une logique sous-jacente. Et finalement, en effet, ces mots voilà, contre lesquels c'est compliqué de s'ériger, santé mentale, pourquoi on serait contre la santé mentale ? Sauf qu'on sait bien ce que ça sous-entend aujourd'hui de parler en ces termes. Et c'est une logique marchande, avec bien tout un marché autour de la santé mentale. Alors, bien entendu, le bien-être, etc. Et puis, de façon plus grave et plus insidieuse, de laisser penser aux gens qui sont seuls responsables de leur santé mentale, que ça leur incombe, que ce serait leur liberté de s'occuper ou pas de leur santé mentale, et que ça évite d'interroger un système qui peut alors rendre fou, je ne crois pas que ça puisse rendre fou, en tout cas dans des définitions de la folie un peu rigoureuses, mais en tout cas apporter énormément de souffrance. Et que voir... nommer santé mentale les aléas de la condition humaine, qui sont quand même pas forcément jalonnés que de bonheur, parce que le bonheur aussi est un objet marchand aujourd'hui, qu'on ait une injonction comme ça au bonheur, et que si on n'est pas parfaitement heureux, c'est qu'on a un problème de santé mentale. Donc avec cette logique-là, les gens sont très malheureux, pour le coup. Et en revanche, il y a un business qui prolifère tout en abandonnant les gens à leur seule responsabilité.
Et en quoi est-ce que ça affecte plus ou différemment les femmes, pour le coup? Parce que nous, on s'est intéressé à cette notion et en lien avec les femmes. Est-ce que ça les touche différemment des hommes, et en quoi ça va les affecter?
Alors, je dirais que si on s'écarte de la psychiatrie proprement dite, c'est-à-dire des maladies mentales, on pourrait se dire que les femmes et les hommes seraient touchés de la même manière par le phénomène santé mentale que j'ai évoqué, cet abandon à soi-même, à se demander de quelle pathologie on serait porteur, qu'il nous faudrait l'application pour savoir si on est bipolaire ou HPI ou je ne sais quoi, pour expliquer le fait qu'on ne rentre pas dans les cases de l'OMS, de la santé mentale, à savoir un parfait et complet bien-être, pas parfait mais complet bien-être, ce qui correspond pas à la santé telle qu'on y a été habitué, en tout cas en Europe, qui serait l'absence de maladie, ou en tout cas la possibilité de tomber malade et de s'en relever. Voilà. Là, c'est complet bien-être. Donc à partir du moment où on doit être en complet bien-être, comment on fait avec les aléas de la vie? Et alors, je pense que... C'est peut-être une erreur, mais je pense que les femmes sont soumises à beaucoup d'aléas de la vie. Je ne veux pas les mettre en concurrence avec les hommes, mais il y a des aléas de la vie qui sont typiquement féminins. Bien sûr, tout ce qui a à voir avec la mise au monde des enfants, les grossesses, les maternités, même si ça concerne les hommes, bien entendu, les femmes ne font pas des bébés toutes seules. Mais en tout cas, ce sont des opérations psychiques spécifiquement féminines. Et spécifiquement masculine quand un homme devient père, bien entendu. Mais c'est quand même différent. Et ce qui est aussi assez spécifiquement féminin, c'est toute cette histoire de violence qu'on dit faite aux femmes, qui sont l'occasion de traumatismes, qui sont mal pris en compte, je crois, dans les conséquences en termes de santé mentale, s'il faut parler de santé mentale.
Vous venez d'en parler, hein, la naissance, la grossesse, la maternité, c'est des choses qui peuvent marquer la vie d'une femme. On entend de plus en plus parler de la dépression du postpartum. A priori, première cause de décès chez les femmes la première année de la naissance de l'enfant. Comment vous expliquez que cette notion-là éclore soit amenée au grand jour et qu'on en parle de plus en plus? J'imagine que ça a toujours existé. Et est-ce que vous pouvez nous en parler de cette dépression postpartum? Qu'est-ce que c'est?
Je veux quand même préciser que je ne suis pas une spécialiste de la dépression du postpartum, pas spécialiste, moi, de la psychiatrie adulte. Voilà, s'il a un pont à faire entre psychiatrie adulte et pédopsychiatrie, c'est bien la dépression du postpartum, car il y a un adulte et un enfant dans ces situations-là. À vrai dire, le plus souvent, un enfant et deux adultes. Alors, c'est pas quelque chose de nouveau, en effet, que les parturientes, les femmes qui viennent d'accoucher, puissent être traversées de mouvements psychiques plus ou moins préoccupant, plus ou moins grave. Moi, j'ai été formée à la psychiatrie il y a une trentaine d'années. J'entendais déjà parler de la dépression du postpartum. Donc, ce n'est pas une notion qui est nouvelle. Après, l'accueil qui peut être fait à cette pathologie, à cette dépression grave qui peut conduire en effet au suicide et qui constitue, vous l'avez dit, la première cause de décès des femmes dans la première année de vie de leur enfant, ce qui est franchement grave. C'est que globalement, jusque dans les années 60-70, c'était pas tout à fait nommé comme ça. Et il y a beaucoup de femmes qui ont été hospitalisées, internées pour des épisodes de ce type-là, et considérées, comme ça pouvait être le cas, comme folles et non curables. C'est probablement ce qui s'est passé pour la maman de Charles Julien, d'ailleurs. À partir des éléments qu'on a aujourd'hui. Et c'est arrivé à de nombreuses femmes. L'exemple récent, qui n'est pas fictif, mais qui a été raconté par l'arrière-petite-fille de cette Elisabeth dans l'ouvrage récent « Mon vrai nom est Elisabeth » d'Adélion. Elle explique bien le trajet de cette femme qui... malgré d'ailleurs ces dépressions du postpartum, à qui on infligeait encore des grossesses. C'était pas considéré comme quelque chose de facile à évoquer. Et ça, ça ne l'est toujours pas aujourd'hui, je crois. J'entendais encore un témoignage récemment à la radio d'une jeune maman, dans un cours de préparation à l'accouchement, une future maman qui évoquait ça, pas la dépression du postpartum, mais en tout cas, l'inquiétude quant à l'eau morale qui baisse, à la dépression. Et que la sage-femme aurait répondu « Non, mais ça, on ne va pas trop en parler. » Alors, est-ce que c'est par crainte que si on en parle trop, ça va arriver à tout le monde? Bon, je ne suis pas certaine. Ou aussi que c'est un sujet délicat et que ce n'est pas facile, en effet, d'en parler. Donc, qu'on en parle de plus en plus, moi, je trouve ça très bien. Parce que d'en parler, je ne crois pas, ça ne va pas soigner d'en parler. Simplement, l'isolement surajouté à la dépression, ça c'est ce qui peut précipiter dans le désespoir et dans l'irréparable. Donc, que les femmes puissent être entendues, en parler, partager, et alors, puis... Le pas d'après, c'est la prise en charge. Parce qu'une fois que c'est repéré et qu'on en a parlé, c'est quand même important de pouvoir être pris en charge de façon adaptée, le plus souvent dans des cas de dépression du postpartum, de façon médicale et psychiatrique. Et là, par contre, on rencontre la pénurie actuelle de moyens pour accompagner ce type de situation.
Oui, on en a parlé quand on a préparé l'émission. Dans l'Ain, par exemple, il n'y a pas de service à Fléria, par exemple, où les femmes pourraient aller se renseigner, à trouver un accompagnement. Ça n'existe pas.
Alors, je ne sais pas si ça incomberait à Fléria, mais en tout cas, un service qu'on dit mère-bébé, d'hospitalisation mère-bébé, où une femme peut être hospitalisée avec son bébé, parce qu'il n'y a le plus souvent pas de raison que la femme et le bébé soient séparés. Mais quand on est hospitalisé en psychiatrie, dans l'Ain actuellement en tout cas, on ne peut pas être hospitalisé avec son bébé. Donc après, il y a des montages peut-être qui sont possibles, mais n'empêche que ce n'est pas reconnu que la situation mère-bébé doit être hospitalisée. Et on fait appel au service lyonnais dans ces situations-là. Donc ça, c'est quand même en effet très dommage. Et ne serait-ce que, parce qu'il n'y a pas forcément toujours besoin d'une hospitalisation, mais de trouver un interlocuteur médical, c'est très difficile.
À quel moment une jeune maman doit s'inquiéter après la naissance de son enfant? Parce que j'imagine que c'est quand même un moment rempli d'émotions. Toutes les émotions, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les aléas de la vie font qu'on peut être heureuse et malheureuse. À quel moment on s'inquiète?
Je ne sais pas si j'en parlerai en ces termes. C'est-à-dire que si chaque femme pouvait avoir la possibilité de partager le fait que ça ne va pas de soi d'aimer cet enfant, ça ne va pas de soi de s'en occuper, ça ne va pas de soi de supporter la dépendance de ce petit être et la disponibilité permanente que ça recrute. Ça ne va pas de soi de devenir mère par rapport à son histoire, à quelle fille on a été, quelle mère on a eu, quelle mère on s'est inventée. Quand l'enfant est là, c'est pas tout à fait comme on l'avait imaginé. Il y a une part plus ou moins importante de déception. Il y a monsieur qui est un peu décevant aussi, mais peut-être qu'on est aussi très décevant pour ce monsieur qui, lui, imaginait qu'une mère, ça doit être comme ci, comme ça. Enfin, voilà, la réalité, le choc de la réalité de l'arrivée de l'enfant par rapport à cet enfant qu'on avait rêvé, qu'on avait imaginé, ça peut être très difficile et ça convoque en effet des éléments intimes de son histoire qui sont remobilisés et qui n'ont pas forcément été traversés de façon apaisée à leur époque. Donc, de pouvoir partager ça et partager cette injonction au bonheur, tout particulièrement au moment de la naissance de l'enfant, qui peut faire souffrir selon le rapport à l'idéal qu'on a aussi chacun. Donc de le partager, ça, ce serait important. Après, les mamans doivent être encouragées à partager que elles n'arrivent plus à se laver, à s'habiller, à dormir et que c'est difficile. Quand il y a des idées vraiment radicales, des idées noires de suicide, en effet, il faut en parler. Mais trouver un interlocuteur. Alors, le premier interlocuteur, c'est peut-être le papa. Donc, il s'agit d'alerter peut-être aussi les papas qui, eux aussi, parfois, peuvent être touchés par une dépression postnatale. Ce ne sera pas une dépression du postpartum, mais une dépression postnatale en ce qui les concerne. Donc, pas tout à fait sur les mêmes coordonnées que chez une femme, mais qui peut être préoccupante aussi, qui peut être tout à fait massive. Mais en tout cas, un homme qui lui perd sa compagne un petit peu, qui doit la partager en tout cas, ça ne va pas de soi, ce n'est pas évident. Et donc, prendre soin l'un de l'autre dans ces moments-là et être encouragé à prendre soin l'un de l'autre. Et l'entourage aussi. Voilà, bien sûr, on dit « Oh, c'est le baby blues, c'est le baby blues », mais moi, je crois qu'il ne faut pas négliger, banaliser les idées dépressives des femmes à ce moment-là.
Et plus globalement, est-ce que ces troubles comme la dépression ou les troubles anxieux, est-ce qu'ils touchent plus les femmes? Est-ce qu'il y a une question qui se jouerait autour des responsabilités qui pèsent sur le fait d'être une femme dans notre société? Est-ce que vous savez ça?
C'est compliqué de répondre parce que les femmes, ou en tout cas les êtres humains qui ont une part féminine majoritaire, sont plus ouverts à la parole, à l'introspection, à mettre des mots sur ses émotions. Donc, est-ce que les hommes sont moins touchés par les éléments dépressifs? Je ne suis pas certaine. Peut-être que ça s'exprime moins ou que ça s'exprime autrement ou qu'en tout cas, ils s'en défendent de façon peut-être plus efficace, ce qui n'est pas forcément bon signe, hein, mais en tout cas, ils y ont peut-être moins accès. Donc, c'est compliqué de répondre à ça. Après, en termes statistiques, c'est vrai que on dit hein, que les dépressions touchent plus souvent les femmes, mais il y a quand même plus d'hommes qui se suicident que de femmes, parce qu'ils sont là aussi plus efficaces dans leurs gestes suicidaires, ce qui est pas une bonne chose, mais voilà, on constate souvent ça. Donc voilà, c'est un peu compliqué de faire ce comparatif homme-femme quant aux pathologies psychiatriques.
Moi, je vais parler de la psychanalyse. En préparant l'émission, je me suis dit qu'on avait imagé souvent la figure de la mère qui est hyper présente dans la psychanalyse. Est-ce que c'est une forme de pression un peu inconsciente qu'il y aurait sur les femmes quand elles deviennent mères ? D'être la bonne mère, de pas... Enfin voilà, on a toutes en tête Oedipe. C'est un peu flippant, moi, je trouve.
Alors, je ne sais pas de quel psychanalyste vous parlez, mais moi, j'aurais plutôt tendance à dire que la psychanalyse a un effet soulageant sur les mères. Alors, en démontant peut-être un peu justement, ou en tout cas en décrivant ce phénomène de mère idéalisée. Hein, oui, avec l'injonction de la société, mais aussi les injonctions internes de chaque fille s'imaginant mère. Donc, moi, je pense pas que ce soit la psychanalyse qui mette cette pression-là, et qu'au contraire, elle peut être une écoute pour chaque femme dans sa souffrance avec l'être mère, oui.
Antoine, Natacha, tu as lu et tu nous conseilles une BD sur le sujet de la dépression du postpartum.
Oui, alors cette BD, elle s'appelle La Remplaçante. Elle est parue en 2021, écrite et scénarisée par Sophie Adriensen et dessinée par Matou, deux autrices engagées qui racontent d'ailleurs dans la postface se sentir personnellement concernées par ce sujet de la dépression du postpartum. J'ai tenté d'écrire l'histoire qui m'aurait fait du bien à la naissance de mon premier bébé, dit Sophie Adriensen. La quatrième de couverture affirme que c'est la première BD qui explore le postpartum. Alors, je ne sais pas si cette affirmation de l'éditeur est vraie. En faisant quelques recherches, j'ai trouvé au moins quatre autres BD sur le sujet, mais effectivement parues après. Et qu'on peut citer d'ailleurs pêle-mêle. Alors, il y a Baby Bleu de Marion Neil, À la dérive de Louison Nielman, Année Zéro d'Anna Roy, ou encore Comme une comète d'Aurélie Krop. En tout cas, l'outil BD, et cette BD en particulier, La Remplaçante, m'a semblé être un bon outil aussi pour rendre accessibles et sensibles des expériences et connaissances sur des sujets délicats qui restent, on l'a vu, encore un peu tabous et ou sujets de honte. Et Carole Echard, vous le disiez tout à l'heure, ça ne va pas de soi, devenir mère, ça ne va pas de soi, supporter la fatigue, la solitude, etc. Et c'est ce que réussissent à bien faire comprendre les autrices avec l'histoire de Marquetta qui s'effondre après la naissance de son enfant. qui se sent d'ailleurs tellement illégitime, tellement pas à la hauteur, qu'elle imagine embaucher donc une remplaçante, c'est le titre du livre, qui réussirait là où elle a le sentiment d'échouer tout le temps. Moi j'ai trouvé ce texte et le dessin aussi très juste et très émouvant. C'est simple mais pas simpliste, et on retrouve par petites touches plein de choses qui font écho pour, je pense, plein de femmes au moment de la grossesse et de la maternité. Donc à la fois les injonctions multiples, contradictoires et culpabilisantes qui pèsent sur les femmes. On compatit aussi pour le corps en miettes, l'épuisement, le manque de sommeil. On ressent, alors j'ai trouvé que c'était un moment très réussi, la solitude et le désarroi de la maman, brusquement seule à la maison avec son bébé, qui se demande mais pourquoi je suis toute seule en fait, quand le congé de paternité du papa prend fin. Et on partage aussi le sentiment de culpabilité de Marquetta, qui se demande mais je dois y arriver, parce qu'elles y arrivent toutes. Voilà, et en creux du coup aussi la responsabilité d'une société, d'un système qui laisse les femmes face à leur solitude et leur détresse. À mon avis, c'est une BD très réussie et très salutaire.
Merci. Et on l'a dit, hein, la vie d'une femme, ça passe par plusieurs étapes, plein d'étapes, n'est-ce pas, Michel ?
Oui, une autre étape dans la vie des femmes, bien sûr, c'est la ménopause. On en entend beaucoup parler en ce moment, puisqu'il y a eu tout un rapport de la commission gouvernementale sur la santé mentale des femmes, qui examine les spécificités de la santé mentale des femmes et déclare que certaines étapes peuvent conduire à des difficultés qu'elles ne sont pas toujours en capacité d'affronter seules. D'ailleurs, on accole de plus en plus des troubles psychologiques à cette période. Dépression, baisse de morale, tristesse, saute d'humeur, anxiété, stress, troubles du sommeil, fatigue. On a même décrit les bouffées de chaleur comme des crises de panique. Et bien sûr, baisse de la libido.
Et donc, quel est votre regard là-dessus, Carole Echard ?
Alors, moi, je trouve bien qu'on en parle. Le risque, un peu avec cette spécificité féminine quant à la grossesse, quant à la ménopause, ce serait de revenir à une explication organiciste des troubles psychiques, c'est-à-dire que c'est les hormones. En balayant un peu la dimension symbolique de ces étapes de la vie, mettre un enfant au monde, c'est une opération symbolique gigantesque. Et la ménopause, c'est une perte aussi symbolique importante. Et voilà, moi je ne voudrais pas qu'on oublie que ce sont ces éléments psychiques et symboliques qui sont à l'œuvre, plus que l'effet des hormones et des neurotransmetteurs. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'avec un travail psychique, avec un travail de parole, on peut avoir une prise sur ces événements-là, qu'il ne s'agit pas de considérer comme inéluctable et inévitable.
Et du coup, pour avoir cet espace de parole, vous l'avez dit, c'est bien quand même de faire appel à des professionnels. Sauf qu'en ce moment, ce n'est pas la forme pour la santé mentale. Hein, Joël ?
Eh bien oui, à ce sujet, ça chauffe beaucoup sur les réseaux sociaux à propos d'un amendement qui est proposé par 14 sénateurs et sénatrices dans le cadre du projet de loi de finances de la Sécurité sociale. Cet amendement, c'est le numéro 159. Il fournit une démonstration flagrante, adoptée en commission et sera débattue en séance publique ce mois-là, donc en novembre. Cet amendement propose d'interdire, à compter du 1er janvier 2026, donc c'est demain matin, tout financement public des soins, des actes et des prestations qui se réclament de la psychanalyse ou qui reposent sur des fondements théoriques psychanalytiques. Et que ce soit dans n'importe quel dispositif, donc ça peut être les centres médico-psychologiques, ça peut être mon soutien psy par exemple, les établissements médico-sociaux, les exercices libéraux. Alors on rappelle que le dispositif Mon Soutien Psy, c'est un service accessible dès l'âge de 3 ans. Il s'adresse à toutes les personnes qui sont en souffrance psychique, d'intensité légère ou modérée, que ce soit de l'angoisse, une dépression, du stress, des problèmes liés à la consommation d'alcool ou d'autres produits. Alors que le bulletin officiel du 15 mai 2025, donc il n'y a pas si longtemps que ça, il fait évoluer le dispositif et il permet de bénéficier d'un nombre plus important des séances remboursées, ben aujourd'hui c'est le contraire. On ne rembourse plus rien, on rembourserait plus rien. Seules les personnes qui peuvent se le permettre financièrement ben, auraient accès aux soins, ce qui est un sacré retour en arrière. Ce sont ainsi des milliers de professionnels, des psychologues comme des psychiatres, mais aussi, et j'ai appris ça hier, dans un autre domaine, les ostéopathes, par exemple, qui par milliers, voire de millions de patients qui pourraient être directement concernés. En recentrant les dépenses d'assurance maladie sur les soins, ayant un bénéfice médical avéré, il s'agit de favoriser la diffusion de pratiques thérapeutiques recommandées par la Haute Autorité de Santé, notamment les approches comportementales, éducatives et de réhabilitation psychosociale.
Du coup, Carole et Charles, vous en avez entendu parler. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
Bien sûr. C'est compliqué. C'est douloureux. On est dans une parfaite logique quant à la politique de santé à l'œuvre depuis des décennies maintenant. Et on est en fait au croisement d'intérêts multiples. Je crois que sur cette question précise de cet amendement, on a la logique marchande, je dirais en tout cas économique, de privatisation qui est à l'œuvre. Vous évoquiez mon soutien psy. Oui, c'est bien mon soutien psy, mais... avant mon soutien psy, il y avait des CMP où on pouvait aller consulter avant même, où on peut aller consulter avant même la naissance de l'enfant et pendant toutes les périodes de la vie, gratuitement, avec des professionnels formés. Et ça s'appelait... Je dois bien le conjuguer au passé, la psychiatrie publique, la pédopsychiatrie publique. Et donc, voilà, dans une logique de privatisation, on a inventé mon soutien psy. Mmh. Seulement, et en effet, les professionnels inscrits dans cette convention, mon soutien psy, vont être un petit peu soumis aux injonctions d'orientation de travail de cette politique. Et là, ça rejoint donc une autre logique qui, pas uniquement économique, mais idéologique, d'attaque systématique de ce qu'on nomme la psychanalyse, en tout cas pour promouvoir, c'est là que ça rejoint aussi une logique marchande, pour promouvoir des thérapeutiques plutôt médicamenteuses. Donc là, tout le big pharma, bien sûr, est très intéressé. Et des thérapeutiques réputées efficaces ou en tout cas qui se sont prêtées à des mises en évidence d'efficacité selon une logique qui elle-même est biaisée du départ, l'evidence-based medicine comme on dit, qui permet seulement à certaines orientations de prouver leur efficacité. Donc voilà une espèce de jeu de dupes comme ça. Et donc, en effet, l'aboutissement, c'est quel prétexte on va trouver pour casser encore les ruines de la psychiatrie, de la pédopsychiatrie publique et des CMP notamment. On va inventer que s'ils revendiquent de s'orienter par la psychanalyse, on va leur couper les moyens. Moi, je crois que de toute façon, on nous coupera les moyens, quoi qu'il en soit. Et que là, la ficelle est un peu grosse. D'invoquer la psychanalyse pour faire ça. Voilà.
La blessure psychique ne se répare pas, mais s'apprivoise, écrit Hélène Romano, qui est psychologue clinicienne, qui est spécialisée dans les psychotraumatismes, et qu'on a entendu ces jours lors des commémorations des attentats de novembre 2015. Cela se pose du temps, des allers-retours, une attention infiniment délicate à la singularité de chacun. On est très loin de l'idée d'une technique miracle qui, en quelques séances, effacerait la mémoire traumatique. Je vous conseille d'aller lire les écrits de nombreux et de nombreuses praticiennes qui s'expriment sur le site que propose une pétition actuellement par rapport à l'amendement dont on parlait tout à l'heure. En fait, il faudrait toujours plus d'efficacité, c'est-à-dire des remèdes miracles pour réparer les humains et leurs traumatismes. Les survivants du Bataclan parlent en ce moment 10 ans après. 10 ans, c'est long. C'est pas un remède magique qui soignera ces personnes comme un goût de baguette, c'est évident.
Du coup, Carole Echard, une dernière question. Moi, je rappelle que vous êtes pédopsychiatre. Voilà, cette actualité, vous la suivez très très près. On nous parle de libération de la parole. Hein, on nous encourage à aller parler, à aller vous rencontrer, les enfants tout petits. Mais là, on vient d'expliquer que c'était l'inverse qui se passait en pratique. Comment vous vivez ça, vous ?
Ouf. La santé mentale des psychiatres.
Allongez-vous. Vous pouvez vous allonger si vous voulez.
Eh bien, je me dis que on rend peut-être service à quelques-uns, même si, en effet, on doit tous les jours. Savoir que il y a des tas de gens qui sont sur nos listes d'attente et que on pourra pas les recevoir et que ils seront livrés à eux-mêmes et que ce soit d'ailleurs les malades proprement dit, les enfants, les adultes ou les équipes qui les professionnels qui les accompagnent, que ce soit dans les lieux de soins ou dans les lieux aujourd'hui dits du handicap. Parce que le mouvement à l'œuvre, c'est de transformer les malades en handicapés mentaux. Auquel cas, ils ne relèveraient plus du champ de la médecine, mais du champ du social. Et voilà, en imaginant faire des économies de cette façon-là. En tout cas, les professionnels de ces champs-là sont le plus souvent demandeurs et contents de pouvoir échanger avec ce qu'on appelle de façon péjorative les psychistes. Et les gens aussi voilà, ne s'y trompent pas. Quand ils rencontrent quelqu'un qui semble à l'écoute, il est beaucoup moins question de diagnostic et de médicaments. Donc, en effet, c'est désolant parce qu'on a, je crois quand même... un savoir-faire, une pratique d'accompagnement qui a fait ses preuves, quoi qu'on en dise, et que ce devrait être accessible, en effet, à la majorité. Mais c'est pas ce qui se profile. Mais il faut résister.
On a bien compris le message, vous inquiétez pas, on a l'habitude dans cette émission. Carole Echard, merci.
Merci beaucoup, merci à vous.
Je vous propose d'écouter le titre « Décharge mentale » d'Amel Bent.
Minuit une, je sors de mon lit. Je vais pas fermer l'œil de la nuit. Au clair de lune, je cherche la rime. Mes deux mains me donnent le vertige. Moi, j'aimerais écrire une chanson et me lever tôt pour mes enfants. Rappeler la banque pour la maison. Changer les rideaux du salon. Gonfler les pneus de mon vélo. Il faut que je devienne écolo. Aller voir mamie à l'hosto. Le temps l'a rendu moins costaude. Dire à mon homme qu'il se souvienne que ça ne suffit plus que l'on s'aime. J'ai pris 3 kilos cette semaine et merde, y'a plus de liquide vaisselle. Signer les carnets de liaison, acheter des légumes de saison. Me réconcilier avec maman, même si c'est pas elle qui a raison. Putain, je vois plus aucun ami. Une tournée, ça laisse du vide. Et puis faut que j'aille voir un médecin. Moi j'ai peur du cancer du sein. Y'a des trucs, pourquoi je les garde comme des souvenirs que j'entasse. J'ai des factures de 2004, faut que je fasse un tri dans ma paperasse. Et faire ma couleur rapidement, on voit trop mes cheveux blancs. Hier encore j'avais 20 ans, et demain déjà 40 ans. J'aimerais quelqu'un qui parle, et qui sache écouter sans me juger. C'est vrai, je travaille pas à l'usine, mais parfois je suis épuisée. Il faut pas que j'arrête de chanter, sinon ma voix va décoter. Et comme parfois par le passé, me remettre en difficulté. Et je voudrais apprendre le piano, la guitare ou le cello. Moi je veux m'accompagner solo, quand mon équipe n'est pas dispo. Dire à ma fille que je suis cruelle, d'être plus exigeante avec elle. Dire au petit de la comprendre, c'est pas facile d'être la grande. Et je gueule trop quand je suis stressée, mes mômes n'ont rien demandé. Je veux pas reproduire ce que j'ai vécu, aussi maman si j'avais su. 7h10, je suis dans mon lit, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Et c'est déjà l'heure du biberon, j'ai pas écrit ma chanson.
Vous êtes toujours dans Y'a pas que le 8 mars sur Radio B.
Mais attends, je comprends pas. C'est quoi un desk en fait?
Bon, c'est une équipe quoi. Je sais pas pourquoi ils appellent ça un desk.
D'accord.
Et celui de Chloé, c'est n'importe quoi parce qu'elle a plein de pays différents alors que ta maman essaie de regrouper ça en zone géographique, tu vois. C'est
pourquoi
ça? Chloé, t'es avec nous?
Oui. Pardon.
Elle fait ça tous les jours, je l'assure, tous les jours.
Non mais pardon, j'attendais un message important là et... Enfin, normalement ils vont pouvoir valider le renforcement de l'équipe si on arrive à avoir le contrat Centrafrique.
Ça veut dire?
Bah, c'est-à-dire je vais pas être seule pour m'occuper des 6 projets qu'on vient de déposer. Bah, je commençais à flipper là mais...
Bah c'est super!
Bon, j'ai un truc à te dire. On n'aura pas les fonds pour dédoubler ton poste à la rentrée, je suis désolé. J'ai même pas pu sécuriser un train stagiaire, faudra partager le prochain avec le desk Moyen-Orient. Et des nouvelles directives pour essayer d'être plus efficient. T'as des points à discuter, toi? On s'en reparle?
Ouais.
Ça va, Chloé? Qu'est-ce qui t'arrive?
C'est rien, j'ai essayé de manger un truc qui ne valait pas.
T'es sûr? C'est pas...
J'étais aux toilettes, j'ai eu une douleur à la tête hyper forte et je suis tombée sur la hanche. Je pense que je suis juste un peu fatiguée. J'ai beaucoup de travail en ce moment et... Voilà, c'est l'affaire de quelques semaines, là, ça devrait se calmer. Et aussi, j'ai plus mes règles. Depuis 3-4 mois. On essaye d'avoir un enfant, du coup, je pensais que c'était ça, mais... Mais c'est pas ça.
Ouais, là nous sommes dans le bureau d'une association humanitaire. Une jeune femme qui est interprétée par Savannah Roll arrive pour remplacer une autre jeune femme qui n'a pas l'air d'être au mieux de sa forme. Enthousiasmée par ce nouveau poste, Chloé travaille d'arrache-pied par plaisir, aussi parce qu'elle a vraiment beaucoup de taf. Et elle commence tôt, elle termine tard. Son travail empiète rapidement sur sa vie privée, mais elle y croit, son boulot. Et puis beaucoup de travail devient trop de travail, du temps, de l'énergie au service de qui, ben au service de quoi, qui reconnaît les sacrifices qu'elle fait, de la reconnaissance, oui, non. Alors son corps lui dit stop, une fois, plusieurs fois. Encore un matin, c'est le nom de ce moyen-métrage qui a été réalisé par Camille Boré et Thibaut Guérin, qui est diffusé principalement lors de colloques qui sont consacrés au burn-out. C'est le fruit qui a mûri suite à l'expérience vécue dans des conditions similaires par l'autrice Camille Boré, il y a plus de 15 ans, elle a plus de 15 ans d'expérience en aide humanitaire internationale. Le lien de l'autrice sera noté sur notre site du « Y'a pas que le 8 mars ».
Et du burn-out, donc c'est de ça dont il s'agit dans ce court-métrage, à la souffrance des femmes en activité, il n'y a parfois qu'un pas. Claudina Lobos, coordinatrice du service emploi au sein du CIDFF de l'Ain, nous a rejointe en studio.
Oui, bonjour Claudina.
Bonjour à toutes.
Alors vous travaillez au CIDFF de l'Ain, Elodie l'a dit, c'est le centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Et vous portez un projet pour prévenir le burn-out parental des mères isolées qui s'appelle « Souffler pour se reconstruire ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est né ce projet, à quel constat il essaye de répondre?
Oui, bien sûr. Donc je disais merci à toutes de m'accueillir et... Et merci à tous de nous écouter. Alors, le constat et la genèse de ce projet est parti depuis, je dirais, 2023-2024. Donc, moi, je travaille au sein de l'association depuis 3 ans. Et en 2024, on a commencé à constater, enfin, on n'a pas commencé, mais on a vu de plus en plus de cas de signes d'épuisement. Des personnes qu'on accompagne. Nous, au service emploi, on a un accompagnement spécifique femmes, avec une majorité de femmes bénéficiaires des minima sociaux, la plupart en situation de monoparentalité. Donc, c'est déjà important de le dire, puisque j'ai un prisme sur lequel je m'appuie. Et même si elles n'étaient pas en situation de travail, donc pas salariées, puisque bénéficiaires des minima sociaux, malgré tout, une grande fatigue et des signes d'épuisement. Donc, de ce constat, sont parties beaucoup de discussions avec notre direction, avec des partenaires. Et c'est des éléments qu'on a pu faire remonter auprès de nos financeurs. Donc, il faut savoir que moi, dans les accompagnements qu'on a avec ma collègue, on a 42% d'entre elles qui sont victimes de violences. C'est aussi une spécificité de notre association, puisqu'on est... On est dans cet accompagnement-là et tout est parti de là, d'un constat vraiment de terrain et des signaux qu'on voyait avec des femmes épuisées par la vie familiale.
Ok. Et très concrètement, alors de quoi il s'agit, comment vous allez aider concrètement ces femmes à reprendre souffle?
Alors, c'est un vaste projet, hein. Donc c'est un projet expérimental qui va commencer dès 2026, même si on est en train de tout mettre en place pour démarrer. C'est une action qui va être portée par l'équipe du CIDFF avec une référente parentalité, une équipe interne, puisque nous avons une équipe pluridisciplinaire avec des juristes, le recrutement d'un ou d'une psychologue qui est en cours, et appel à des partenaires spécialisés dans leur partie. Ça va être la sophrologie, l'art-thérapie. On avait expérimenté, nous, l'année dernière, des ateliers d'art-thérapie numérique avec une art-thérapeute spécialisée par les psychotraumas, puisqu'on en parle, ça reste très important. Et ça va concerner des femmes isolées ou victimes de violences. En sachant que parfois, c'est les deux en même temps. Donc, comme je le disais, expérimental, donc sur un échantillonnage qui va partir avec une humilité aussi de notre part, de 30 femmes à accompagner.
C'est déjà pas mal. Ouais.
Oui, c'est déjà pas mal. Ouais.
C'est une goutte d'eau dans le vaste océan, mais l'idée, c'est qu'on puisse, nous, agir et avec un constat de terrain, puisqu'il était, nous, très, très complexe de pouvoir les accompagner vers une reprise d'activité sans prendre en compte ces spécificités et cette problématique, puisque l'accompagnement, nous, qu'on a, est vraiment personnalisé. On les voit une à deux fois par mois. Je mets quiconque au défi de pouvoir voir des personnes deux fois par mois, une heure, parce qu'il faut bien une heure pour vraiment savoir comment elles vont.
Le défi, là, c'est de faire en sorte qu'elles puissent se reprendre en main, mais pas forcément les orienter tout de suite vers le travail. C'est ça? C'est procéder par étapes, en fait?
Oui, tout à fait. Là, on est sur un projet expérimental avec aucun objectif vers une reprise d'activité. Puisque la spécificité est justement, nos partenaires sont là et ont entendu que ce n'était pas la démarche première. Même si alors l'autonomie économique, l'émancipation des femmes passe par la place qu'elles peuvent prendre et qu'elles sont en capacité de prendre.
Oui, mais il faut aller bien pour pouvoir passer à cette étape-là.
Évidemment, évidemment.
Merci Claudina. Je rappelle que vous êtes coordinatrice du service emploi au CIDFF de l'Ain.
Ah, je crois qu'on a une autre question de Joël. Ah,
ben, peut-être que vous avez envie de dire d'autres choses.
Je pourrais juste compléter, oui. Parce que ce projet n'existerait pas évidemment sans le soutien et les financeurs qui ont entendu ce constat de terrain. On est allé frapper à plusieurs portes. On a pu, nous, être entendus par la CAF. Les services de l'État avec la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités sur le service réduction des inégalités, puisque les femmes en situation de monoparentalité font partie du public prioritaire. dans le pacte des solidarités, puisqu'elles sont c'est les familles les plus pauvres. Et évidemment avec un soutien de la déléguée aux droits des femmes et à l'égalité, très important puisque ces services sont là, nous ont entendu et l'expérimentation pourra nous dire l'avenir de tout cela. Mais en tout cas, nous, l'objectif, c'est que ça se poursuive, évidemment. J'avais aussi envie d'ajouter, c'est que par rapport à ce projet, on a... En fait, on parlait de burn-out. Donc là, dans le précédent, le court-métrage, l'extrait, et j'irai vraiment le voir, je pense, ça m'a troublée. On est sur le volet de l'épuisement professionnel. Donc, épuisement familial et épuisement professionnel sont très souvent liés. Et sur l'épuisement professionnel, je vais en dire simplement deux mots, puisque j'aurai l'occasion de revenir. C'est qu'on a aussi lancé un accompagnement de femmes en situation d'épuisement professionnel et qui sont accompagnés par les services de santé au travail, avec un accompagnement spécifique de ces femmes qui sont en arrêt maladie, mais qui ont besoin ou qui sont en capacité de se projeter et justement de ne pas se retrouver dans le rien. Donc on les accompagne vers ce nouveau projet et avec une sensibilisation des entreprises, puisque sinon ça ne fonctionnerait pas bien, 2026 avec un partenariat sur le service de santé au travail avec des psychologues du travail et des ergonomes, etc. On va aller chercher vraiment les compétences adaptées.
Et ben, du coup, c'est réjouissant quand même d'entendre des solutions qui essaient de se mettre en place. Pour les femmes qui souhaiteraient rejoindre votre dispositif, est-ce que c'est ouvert ou est-ce que vous avez déjà fléché les 30 personnes, vous les avez déjà en tête?
Alors, je ne les ai pas totalement fléché, mais j'en ai certaines que j'accompagne déjà qui sont dans cette situation-là. Mais on va passer par un travail de partenariat avec des partenaires, avec les centres sociaux, les services de la CAF et nous, l'expertise qu'on a en interne, c'est-à-dire que les juristes ont été formés, enfin toute l'équipe du CIDFF a été formée avec un outil d'évaluation, entre parenthèses, pour pouvoir détecter ces femmes-là. Donc non, rien n'est figé, puisqu'on est vraiment en train de construire l'action en ce moment.
Ok, donc si jamais vous êtes intéressé, on contacte le CIDFF et pour avoir les informations, il y a peut-être des informations en ligne sur votre site.
Pas encore,
mais ça va arriver.
Oui, tout à fait. Merci.
Merci à vous, Claudina Lobos.
Merci.
Ensemble, obéir aux doigts, ma carte de membre. Tenir mon rôle avant que la tombe m'attende. J'aurais besoin d'apprendre comment sourire, délaisser la pénombre, rejoindre le bal, devenir un modèle, résister à l'envie de répondre quand je tiens à scalpel, que la folie m'appelle. 10 000 façons de se détruire, j'ai pas choisi laquelle. Dans ma cervelle, je laisse parler entre elles. Mes angoisses émanant seraient telles que je dois être un clown dans une vie parallèle. J'ai l'impression d'être au fond de l'impasse. Qu'on m'a condamné, déjà mis à la casse. Qu'on me tue à l'avance, couler mes chances, c'est une évidence. On me pisse à la face, chercher des sens depuis ma naissance. Ma seule défense, ma carapace. J'attends la délivrance, le temps avance. Et j'ai tous mes démons qui me suivent à la trace. Mais où est ma bouée? Si vous pouvez me la trouver, balancez-la dans l'égout où je suis en train de couler. La folie va m'avaler, je suis harcelé par mes doutes. Ils me retiennent par le cou et la corde est nouée. Mais où est ma bouée? Si vous pouvez me la trouver, balancez-la dans l'égout où je suis en train de couler. La folie va m'avaler, je suis harcelé par mes doutes. Ils me retiennent par le cou et la corde est nouée.
Le titre « Aidez-moi » de House Gang. Vous êtes toujours dans « Il n'y a pas que le 8 mars » sur Radio B. Alors Natacha, après tout ce qu'on vient de se dire, et si la solution c'était de réinventer la prise en charge des femmes?
Bah peut-être. En tout cas, c'est ce qu'explore un super podcast qui a pour titre un podcast à soi dans son épisode 52 intitulé « Inventer une thérapie féministe ». Charlotte Bien-Aimée, qui porte ce podcast, nous invite à réfléchir à ce que pourrait être un accompagnement psychologique féministe. Puisque, nous dit-elle, depuis des siècles se niche dans notre inconscient le patriarcat et dans nos histoires intimes et familiales. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas que les thérapeutes s'emparent des outils et des grilles de lecture du féminisme pour aider les filles et les femmes à aller mieux et à comprendre ce qui nous arrive? Interroge Charlotte Bien-Aimée. Je ne peux pas considérer que la psychologie des femmes, le bien-être ou le mal-être des femmes puissent être séparés d'un système global d'attaque contre les femmes, souligne par ailleurs la psychologue Juliette Mercier que l'on peut entendre dans le podcast. Bon, mais concrètement, une thérapie féministe, à quoi ça pourrait bien ressembler? Elle reste largement à inventer en France, nous explique le podcast, mais celui-ci propose d'explorer quelques pistes, de dessiner quelques contours de ce que pourrait être cette thérapie féministe.
Le but, ça va être de donner des billes aux femmes pour fissurer la vision du monde imposée par les dominants. Pouvoir observer leur vie, la manière dont elles se considèrent elles, la manière dont elles considèrent les autres femmes, leurs sœurs, leurs mères par exemple, avec une grille d'analyse qui soit féministe. C'est démonter un à un tous les mythes qu'ils ont construits. Par exemple, ce mythe du fait que les agresseurs ne savent pas ce qu'ils font. Montrer qu'elles ne sont pas folles, qu'elles ne sont pas coupables, qu'elles n'ont pas de raison d'avoir honte. Pour la première fois, c'est pas de notre faute, c'est pas parce que nous, on n'a pas été assez ceci, assez cela. Et se débarrasser de cette culpabilité qu'ils imposent à leurs victimes, c'est déjà un premier poids immense.
Pour la psychologue Françoise Cironi, que l'on entend dans le podcast, on pourrait d'abord commencer par questionner la posture du thérapeute et notamment interroger les effets de ce qu'on appelle la neutralité bienveillante préconisée en psychanalyse. Pour Françoise Cironi, cette neutralité bienveillante, le silence du thérapeute est au contraire malveillant, en particulier lorsqu'il s'agit d'accompagner des femmes victimes de violences. Pour elle, une thérapie féministe, ce serait nécessairement une thérapie par la parole, où la praticienne met des mots, nomme les violences et forme les femmes à détecter les comportements de domination. Donc il y a l'idée d'un engagement aussi du thérapeute ou de la thérapeute qui va aussi parler de lui, d'elle, se situer dans l'espace social, etc. Donc voilà déjà un premier jalon de ce que pourrait être cette thérapie féministe que le podcast propose de questionner. Un des autres aspects importants qu'on entend dans le podcast porte évidemment sur les contenus même de l'accompagnement, les contenus des savoirs qui sont transmis. D'abord, il y a cette idée de rejeter très fort tous les postulats psychanalytiques misogynes et négatifs. inégalitaire. Et puis ensuite, on l'entend très fortement dans le podcast, que l'importance d'articuler toujours la psychologie, le psychologique et le social, d'ancrer l'approche psy dans un contexte social, de mettre à jour les effets du système patriarcal sur la santé mentale des femmes. Donc, on vous invite à l'écouter. Il est formidable, ce podcast, sur Arte Radio notamment. Oui, Joëlle.
Oui, je voudrais quand même rajouter qu'au niveau de la psychanalyse, il y a quand même des gens qui travaillent sur autrement, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas simplement à l'écoute. Et puis aussi, il y a une interrogation pour faire rentrer justement le féminisme dans une façon de réfléchir et d'appliquer différemment les fondements même de la psychanalyse.
Oui, tout à fait.
Ça tombe bien puisque tu peux recommander des listes
oui,
à ce propos.
Oui, et oui, pour finir, je voudrais également recommander la liste des psys dits situés, entre guillemets, qui prennent en compte les oppressions dans leur pratique. Et cette liste de psys situés est proposée par l'Association pour le soin queer et féministe qui est basé à Toulouse et qu'on entend d'ailleurs dans le podcast de Charlotte Bien-Aimée. Alors qu'est-ce que c'est qu'une pratique située ? Une pratique située veille à garantir un espace dans lequel on s'attache à ne pas reproduire les oppressions systémiques existant dans le champ social. Racisme, patriarcat, validisme, classisme, agisme, transphobie. Un ou une psy située a conscience de ces discriminations, connaît ses effets et conséquences et les prend en compte et cherche à les exclure de ses propres pratiques. Les praticiens et praticiennes sont recommandés pour figurer sur la liste, puis un entretien est conduit par l'association et ils et elles donnent leur accord pour figurer sur cette liste. Alors, on a, si on consulte la liste, on verra qu'on n'a pas de psy recensé à Bourg, ni même dans l'Ain. Quelques-uns, quelques-unes à Lyon, et puis d'autres d'ailleurs qui proposent des accompagnements en visio, donc qui peuvent être basés partout en France, mais qui peuvent accompagner les personnes en visio. Donc, si vous êtes professionnel de la santé mentale et que vous vous retrouvez dans une pratique politisée, située féministe, intersectionnelle, et souhaitez figurer sur cette liste, rendez-vous sur la page internet de l'association psysafeinclusif.wixsite.com. Alors Wix, WIXSITE.com.
On mettra la référence sur le podcast. Et moi, autour des troubles liés à la santé mentale, je vous propose deux romans. Les fillettes de Clarisse Gorokoff. Donc l'histoire de Rebecca en proie à la dépression et à des addictions, racontée par ses trois filles. Un roman paru en 2019 qui permet de se plonger dans le quotidien et le ressenti d'une personne malade et de son entourage, où l'on approche de la réalité de ce que peut être la vie avec un trouble lié à la santé mentale. Et puis le roman Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan, où encore une fois c'est une enfant qui raconte la bipolarité de sa mère. Alors, on la suit enfant, mais ensuite quand elle est adulte, elle raconte un petit peu ses souvenirs. Et puis j'indique que les deux romans sont disponibles dans les médiathèques de Bourg-en-Bresse, donc n'hésitez pas à aller les emprunter.
Et puis toujours dans les médiathèques, la revue dont on parlait tout à l'heure, La Déferlante du mois de novembre, un article qui est très intéressant sur la santé mentale justement. Dans cet article, entre autres, il est mentionné une chanson des Rolling Stones, Mother Little Helper, qui encourage les femmes à prendre un petit remontant si la vie est trop dure. Ça vaut vraiment le coup d'aller écouter ce titre qui remonte maintenant à plusieurs dizaines d'années.
Oui, alors le remontant, selon lequel vous choisissez, avec modération, bien sûr. C'est la fin de cette émission. Merci à vous, mes chères co-animatrices. Merci à Jimmy à la technique. On se retrouve le mois prochain. En attendant, prenez soin de vous. Give me a
give me a reason.